En colloque, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'enseignement des sciences à l'école primaire connaît une seconde jeunesse, grâce aux instituteurs tout d'abord, mais aussi grâce à l'impulsion de la main à la pâte, vous savez, cette fondation de l'Institut de France, initiée par trois grands académiciens des sciences, Georges Charpak, Yves Quéré et Pierre Lena. Depuis plus de 10 ans, la main à la pâte se fixe pour objectif de donner ou redonner le goût des sciences aux jeunes élèves à l'aide de travaux pratiques. Pourquoi et comment l'eau se met-elle à bouillir? Pourquoi existe-t-il des changements de saison? Comment fonctionnent les volcans? Les écoliers vont pouvoir répondre à de telles questions en réfléchissant par eux-mêmes. Ce 15 janvier 2007, élèves et professeurs ont été récompensés pour leurs travaux lors d'une journée festive à l'Institut de France et près de 400 élèves accompagnés de leurs maîtres sont venus écouter le président de l'Académie des sciences Jules Hoffmann ainsi que Yves Quéré et le ministre délégué à la recherche François Goulard. Nous vous proposons d'écouter dans quelques instants l'intervention de Jules Hoffmann qui présente l'Académie des sciences aux écoliers, Yves Quéré qui revient sur la genèse de la fondation de la main à la pâte et l'intervention du ministre délégué à la recherche François Goulard qui insiste quant à lui sur l'impact de nos jeunes générations dans la recherche scientifique à venir. Et pour mêler science et art, la classe des petits altistes de l'École nationale de musique de Lay-aux-Roses vous emmène dans une forêt féerique avec La Colombe de la Paix, un conte musical orchestré par Karine Letiec. Tout de suite, Jules Hoffmann, président de l'Académie des sciences.
En deux mots, l'Académie des sciences, c'est un parlement, pour ainsi dire, de scientifiques. Ce sont tous des gens de tous les domaines qui vont des sciences du vivant, aux planètes et bien au-delà. Je ne sais pas si on peut aller beaucoup au-delà. Si. Et qui, à un moment donné, ont beaucoup travaillé en classe. On fait beaucoup d'examens et on fait l'une ou l'autre découverte et qui se retrouvent ensuite élus par leur père, qui se retrouvent dans ce Parlement, dans ces locaux qui sont des locaux très anciens qui ont été construits au XVIIe siècle. Et dans ces locaux, alors qu'est-ce qu'ils font les académiciens? Eh bien, ils réfléchissent sur les problèmes d'actualité, sur le changement du climat, sur les infections, sur la grippe aviaire, sur toute une série de problèmes. Et ensuite, quand ils ont fait leur réflexion, ils écrivent des rapports, et ces rapports, ils les transmettent à ceux qui nous gouvernent et qui les lisent alors et qui souvent en tiennent compte. C'est une première chose. D'autre part, les académiciens suivent de façon très proche, suivent le travail des jeunes scientifiques et des scientifiques un peu plus âgés. Et quand quelqu'un a fait un très bon travail, a trouvé des choses intéressantes, alors l'Académie leur donne un prix, l'Académie soutient leur recherche, leur donne des crédits pour leur recherche dans de nombreux cas. Et quand quelqu'un vraiment a beaucoup, beaucoup travaillé, alors l'Académie l'élit comme membre et alors il fait partie lui-même de ce Parlement. D'autre part, cette Académie, en dehors des relations donc avec le gouvernement, les relations avec les différents scientifiques, est aussi en charge les relations internationales. Donc elle travaille avec les gens qui sont du même type, du même bord scientifique, aux États-Unis, en Chine, en Russie, etc., organise des réunions avec ceux-là pour échanger l'évolution de la science dans les différents pays. Voilà donc ce que fait cette Académie des sciences. On se réunit une fois par semaine ici, le mardi. On a de nombreux gens dans cette salle, et alors en général, on s'arrange pour qu'il y ait un conférencier qui vienne nous parler de quelque chose de neuf, et après on discute, il y a beaucoup de questions, beaucoup de discussions, et comme dit, après, la plupart du temps, on fait un petit rapport là-dessus. Alors voilà pour l'Académie des sciences. Encore juste pour vous préciser, dans ce grand bâtiment qu'on appelle l'Institut de France, il n'y a pas que l'Académie des sciences, c'est la plus grande, on a 230 membres, mais il y a aussi l'Académie française, il y a surtout l'Académie française, c'est la première. Et l'Académie française, c'est celle qui s'occupe de la langue française, de la littérature. Il y a l'Académie des beaux-arts qui s'intéresse aux beaux-arts de façon générale, à la sculpture, à la musique. Il y a l'Académie des sciences politiques et morales qui s'intéresse à tout ce qui est politique et morale, dans laquelle il y a en général comme membre un archevêque, un cardinal. C'est cardinal Etchegaray en ce moment. Et ensuite, il y a l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ça, c'est l'archéologie, l'histoire, la paléontologie, etc. Voilà. Alors, toutes ces académies se réunissent dans cet institut et chaque académie a un jour pour ses réunions. Alors, maintenant, je voudrais venir à pourquoi vous êtes ici avec nous, mais vous êtes ici avec nous parce que l'Académie, depuis 10 ans bien plus, s'est intéressée à l'éducation de la science parmi les tout jeunes. Parce que nous constatons que ceux qui sont un peu plus âgés que vous, ceux qui font leur bac et ensuite s'orientent vers l'université ou les grandes écoles, souvent, ils ne sont pas très motivés pour la science. Ils nous disent « Oh, la science, c'est pas vraiment pour moi ». Et c'est parce qu'ils n'ont pas, assez tôt, on leur a pas montré à quel point la science était formidable. Et quel point, surtout, dans la science, on pouvait poser une question, faire une expérience, émettre une hypothèse, et ensuite, après l'expérience, dire ben, « C'était vrai » ou « C'était faux, il faut changer d'hypothèse ». Alors ça, donc, c'est ça que nous pensons, nous pensons depuis longtemps qu'il faut essayer de développer auprès des plus jeunes pour leur donner le goût de l'expérimentation, le goût de ce que nous appelons le goût de l'évidence. Il faut croire en ce qu'on voit, en ce qu'on a pu mettre en évidence soi-même et puis d'autres évidemment, parce qu'on ne peut pas refaire toutes les expériences de l'humanité, mais comprendre. Et alors, c'est ce qu'on dit, la phrase que j'ai souvent entendue dire, et dans le temps on disait que les jeunes devaient apprendre à écrire, à lire et à compter. Et ce que nous aimerions, c'est qu'en plus d'écrire, de lire et de compter, vous appreniez à raisonner, à poser les questions, à imaginer comment on peut répondre aux questions et ensuite établir vous-même la conviction de ce qui s'est passé dans votre expérience. Alors, ceci donc a été mis en place, comme j'ai dit, il y a de nombreuses années maintenant. Et l'Académie est très attachée à participer à ce qui est appelé souvent la rénovation de l'enseignement scientifique, et ceci à partir des plus petites classes. Et au-delà, bien entendu, on est en train maintenant de passer dans les collèges, et au-delà, donc on voudrait que cette opération se généralise. Elle est aujourd'hui, vous le savez, main à la pâte, est une opération qui touche le tiers des classes, des petites classes. Et nous pensons que ceci pourrait, à terme, être généralisé pour l'ensemble du pays. Alors voilà, je vous ai parlé de l'Académie, je vous ai parlé un peu de l'objectif tel que de notre objectif, c'est-à-dire de vous soutenir dans votre démarche. Je voudrais maintenant surtout m'adresser à ceux qui sont responsables de la qualité de ce qu'on va fêter aujourd'hui. D'abord, les maîtres. Je veux d'abord, au nom de l'Académie, et je suis sûr au nom de vous tous, féliciter tous les maîtres à qui vous et nous devons la qualité de la fête qui est devant nous.
Il était une fois, dans la forêt, un oiseau. Deux oiseaux. Il y avait aussi de drôles de tout petits oiseaux. C'est un alto.
Mais pourquoi y a-t-il des altos dans la forêt?
C'est une vieille histoire, aussi vieille que la forêt.
Pour faire un alto,
cheval qui soit musical pour faire un alto. Et voilà le secret de pourquoi y a-t-il des altos dans la forêt. C'est parce que pour faire un alto, il faut un sapin de perlimpinpin. Et pour faire un archer, il faut un cheval qui soit musical. Et pourquoi un cheval? Quelques explications sont nécessaires, je crois. Prenons cet archer. Un archer, c'est comme un arc. Archer, arc. Il y a une baguette en bois, et là, avec la mèche, non, on ne tire pas, nous. On fait de la musique. On va frotter l'archer sur les cordes de l'alto. Ici, c'est donc cette baguette en bois de...
Pernambouc.
Oui, c'est du bois de Pernambouc. C'est du bois qui vient d'un arbre au Brésil, dans les forêts d'Amazonie. Vous savez qu'ils coupent toutes les forêts là-bas. Il faut leur dire d'arrêter. Bientôt, on ne pourra même plus faire des archers, on ne pourra plus faire de la musique. Il n'y a que là-bas qu'on peut l'avoir, ce bois de Pernambouc. Et ici, regardez, c'est tout pointu. C'est la pointe. Et ici, c'est le talon, carré, comme le talon d'une chaussure. Et entre la pointe et le talon, le cheval, le fameux cheval. Enfin, du moins, le crin du cheval. C'est la queue du cheval. C'est pour cela que l'on nomme parfois l'alto le crin-crin. Oui, vous avez raison, ce n'est pas du tout un joli nom pour un si bel instrument. Regardez-le, l'alto. Il est né dans une forêt. Ici, la table, c'est du sapin. On vient de le décorer là pour Noël. C'est le même sapin qu'on est allé couper pour faire le devant de l'alto. Derrière, c'est le dos. C'est un autre arbre. C'est l'érable. L'érable, c'est cet arbre qui nous donne un si bon sirop d'érable. Ce bois noir que vous voyez ici, il est beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus dur. C'est de l'ébène. Vous vous souvenez, dans le conte de Blanche-Neige, on dit qu'elle a des cheveux noirs comme de l'ébène. Et tous ces bois, c'est monsieur le luthier qui est allé le chercher dans la forêt. C'est son métier d'être luthier. Il va dans la forêt et il sait reconnaître les arbres qui vont sonner, qui vont faire de la musique. Puis il coupe des planches. Il les fait sécher très longtemps. Quand elles sont prêtes, il coupe les formes de l'alto. Il les emboîte une à une et il les colle. Ça doit encore sécher très longtemps. Et après un an de travail, le luthier a fini notre alto. Et regardez comme il est beau. En plus, il nous ressemble. Il a une tête, un cou, des épaules, un petit ventre et un très joli dos. Il a même nos humeurs. Parfois, il est content. Souvent, il est très content. Mais parfois, quand on ne s'occupe pas beaucoup de lui, il fait des drôles de bruits. Mais laissez-les respirer.
Ils respirent par les ouïes.
Les ouïes, ce sont ces deux drôles de bouches ici qu'il a. Ce sont des trous. On peut aller à l'intérieur de l'alto. Et si vous regardez à l'intérieur des ouïes, que voyez-vous?
L'âme de l'alto. Écoutez l'âme de l'alto.
Thank you.
alto a quatre cordes. Quatre cordes pour chanter. Pour chanter miséricorde, pour chanter la liberté. Et oui, avec quatre cordes, avec simplement quatre notes, on peut faire toutes les musiques du monde. Mais quelles sont-elles, ces quatre cordes? On a d'abord le do, puis le sol. Ensuite, un ré. Et la corde la plus aiguë, c'est le la. Avec quatre cordes, on joue toutes les musiques du monde. Mon alto a deux épaules pour porter jusque au pôle, pour porter la liberté. Des chevilles pour danser garçons et filles, pour danser la liberté. La ronde à travers le monde, c'est une ronde qui naît pour qu'enfin règne la paix. La colombe de la fée.
Bravo. 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 Infiniment merci.
C'est Monsieur le ministre Georges Charpak qui aurait dû vous présenter ces quelques mots, mais son médecin en a voulu autrement. Nous en sommes tous désolés. Il est le premier désolé. Il m'a chargé de vous transmettre toutes ses salutations et surtout toute sa reconnaissance pour votre présence ici. Et nous sommes tous, adultes comme enfants, extrêmement heureux que vous soyez là. Il vous aurait certainement dit, Georges Charpak, que c'est dans cette pièce, dans cette salle plutôt, que la main à la pâte est née, un certain jour de juillet 1996, par un vote de l'Académie qui a créé la main à la pâte. Il vous aurait certainement dit aussi que c'est dans cette salle qu'a eu lieu, il y a juste 10 ans, la première remise des prix, dont nous avons le 10e épisode cette fois-ci. Et il vous aurait certainement décrit en quelques mots ce qu'est la main à la pâte, bien que vous l'ayez par les exposés des prix déjà fort bien compris. Je souhaite, dans la suite de ce qu'il vous aurait dit, peut-être vous définir la main à la pâte en 3 mots, tout simplement. Et puis, je crois vous dire aussi ce que n'est pas la main à la pâte, en 3 mots. Parce que, pour décrire ce que nous sommes, il est aussi important de savoir ce que nous ne sommes pas. Et enfin, en 3 autres mots, ça fera 9 mots si je compte bien, vous donner 3 ingrédients importants de cette opération qui est la main à la pâte. Donc, la main à la pâte en 3 mots, je crois que le premier, ce sera apprendre. Nous voulons que les enfants apprennent des sciences. C'est tout naturel. Ils vont à l'école pour apprendre. Et il faut qu'ils apprennent des éléments de science, pas d'une science très compliquée. Il faut, par exemple, qu'ils apprennent, qu'ils sachent que, par exemple, l'eau bout à 100 degrés C. C'est une connaissance de la nature. Et ils doivent savoir ça au même titre qu'ils doivent savoir que Louis XIV est mort en 1715. Donc, les enfants doivent d'abord apprendre de la science. Mais deuxième mot important, ils doivent faire de la science. Exactement à l'image de ces enfants, ces merveilleux enfants de Karine Lepiec, qui, non contents d'apprendre de la musique sur le papier ou en écoutant des disques, font de la musique. Et c'est beaucoup plus important, finalement, de faire de la musique. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut apprendre le mieux la musique, c'est en la faisant. Eh bien, pour nous, apprendre la science, c'est évidemment apprendre des données de science, l'eau bout à 100 degrés, mais c'est faire de la science. C'est-à-dire, au lieu de simplement apprendre par cœur l'eau bout à 100 degrés, c'est de faire que dans la salle de classe, les enfants aient une petite casserole, un peu d'eau, une bouilloire et un thermomètre, et peut-être un petit chronomètre pour mesurer la température à chaque minute. Et quand je dis mesurer, nous voyons tout de suite que les nombres apparaissent immédiatement. C'est-à-dire que nous voyons immédiatement qu'en faisant la science, immédiatement apparaît le lien formidable entre les sciences de la nature et les mathématiques et le calcul. Donc nous voulons que les enfants fassent de la science parce que c'est comme ça qu'ils peuvent l'aimer comme on aime la musique en faisant de la musique. Et puis, troisièmement, nous pensons que, et c'est le troisième mot important, je crois, il a déjà été prononcé par notre président, nous pensons qu'en faisant de la science, les enfants sont amenés, sont conduits à raisonner, sont conduits à réfléchir. Parce que, pour l'exemple que je prenais, lorsqu'ils font bouillir leur eau, ils s'aperçoivent qu'il y a 2 entités, ils diront peut-être 2 choses, il y a la chaleur qui est apportée par le réchaud, et puis il y a la température. Et ils s'aperçoivent que ces deux animaux vivent ensemble pendant un certain temps, la température monte pendant que la chaleur arrive, et puis tout d'un coup ils se séparent. Ils vivent des vies séparées, c'est-à-dire que la température reste constante, elle reste à 100 degrés, tandis que sur leur petit graphe, car ils ont fait un graphe, ils voient que la température s'arrête de croître alors que la chaleur continue à arriver. Et ceci amène des questions délicates, des questions difficiles, dont ils n'auront pas la réponse, évidemment, tout de suite à l'école primaire, des questions sur la différence entre chaleur et température, par exemple, dans mon exemple. Donc, les voilà, les enfants, amenés à raisonner. Et je pense tout à fait, comme l'a dit notre président tout à l'heure, qu'au trio célèbre du lire, écrire, compter, il serait très bon qu'on ajoute lire, écrire, compter, raisonner. Et ce que l'école peut apprendre peut-être de mieux, outre les connaissances, aux enfants, c'est à leur apprendre à raisonner. Dans un monde de plus en plus difficile à vivre, il faut qu'ils sachent raisonner. Voilà un petit peu, Monsieur le Ministre, en 3 mots, ce qu'est la main à la pâte. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin dans la réduction de la main à la pâte en 3 mots. Et puis, je voudrais vous dire un peu ce que n'est pas la main à la pâte. Je voudrais vous dire en particulier qu'on nous a souvent dit « Ah, mais la main à la pâte, c'est très sympathique, vous refaites, vous réinventez les leçons de choses. » Ce qui à la fois nous a fait plaisir, parce que nous avons tous aimé les leçons de choses. Tous ceux qui ont un certain âge ont fait des leçons de choses. Et en même temps, nous a semblé un peu vrai et beaucoup faux. un peu vrai parce que les leçons de choses et la main à la pâte ont en commun l'expérimentation, mais beaucoup faux parce que dans la leçon de choses, c'était le maître qui faisait une expérience devant nous, je me rappelle très bien, nous étions les bras croisés et nous regardions, peut-être rêvations-nous un petit peu à autre chose, mais c'était le maître qui faisait l'expérience, tandis que dans la main à la pâte, vous l'avez vu avec ses enfants de ses classes, c'est les enfants eux-mêmes qui, avec le maître, font la science. Donc ce n'est pas tout à fait, ce n'est même pas du tout la leçon de choses. Deuxième point, deuxième mot où nous sentons que ce n'est pas la main à la pâte, c'est le mot d'amusement. On nous dit souvent que nous amusons les enfants, que la main à la pâte, finalement, est un enseignement de la science par l'amusement. Or, rien n'est plus loin de notre volonté. Nous ne pensons pas qu'on puisse enseigner en amusant. J'énonce ceci un peu avec certaines solennités. L'enseignement n'est pas un amusement. L'enseignement est une activité extraordinairement sérieuse, extraordinairement grave d'une certaine façon. C'est pour la vie, et comme l'est la science à l'intérieur de l'enseignement. Et par conséquent, ce n'est pas s'amuser que d'apprendre. C'est véritablement se cultiver. Et par conséquent, il y a un autre mot qui, en revanche, en face de l'amusement, en face du ludique, ce fameux ludique, un mot qui nous semble beaucoup plus important, qui est la joie. Parce que si nous ne voulons pas, si nous ne pensons pas que les enfants s'amusent en classe, en revanche, constatons-nous à chaque instant, quand nous visitons ces classes, que les enfants ont une joie, un bonheur extraordinaire de pratiquer la science. Et ça, c'est magnifique, parce que la joie, contrairement à l'amusement, est un sentiment qui élève, qui éduque, qui élève l'enfant. Et ça, c'est quelque chose auquel véritablement nous croyons. C'est apprendre par le bonheur d'apprendre et non pas par l'ennui. Enfin, il y a un troisième mot dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, qu'on nous adresse quelquefois, qui est de dire « Ah oui, vous, c'est l'Académie des sciences, par exemple, vous faites un lobbying. Oh, » C'est un mot que j'ai un petit peu de mal à prononcer à quelques mètres de la salle des séances de l'Académie française, qui n'aime pas les mots anglais, mais c'est un lobbying pour la science. Non, nous ne faisons pas un lobbying pour la science. Nous pensons que la science a son rôle à jouer dans ce grand continent qui est la culture humaine, dans laquelle nous trouvons la littérature, nous trouvons les arts, nous trouvons la musique, bien sûr, nous trouvons l'histoire, et la science a son rôle à jouer, a sa place à avoir, a sa place à tenir dans la culture humaine, et par conséquent, il ne s'agit pas du tout d'un lobbying, d'un forcing, c'est simplement retrouver une place normale pour la science. Voilà ce que c'est, monsieur le ministre, voilà ce qu'est la main à la pâte, voilà ce qu'elle n'est pas, et enfin, mes trois derniers mots, ce sont les auxiliaires, les adjuvants, qui nous ont semblé, dès le départ, importants dans cette grande aventure de la main à la pâte. Le premier, c'est la coopération avec le monde musical, avec le monde de la science, avec la communauté scientifique. Ça a été un peu un paradoxe dans cette salle de dire que, et c'est tout un symbole en fait que la main à la pâte soit née ici, ça a été un peu un paradoxe de dire qu'il nous semblait important qu'il y ait une communauté qui s'établisse, qui n'existait pas, entre le monde de la science, le monde des scientifiques, et le monde de l'enseignement primaire. Il y a un léger paradoxe, on ne voit pas forcément pourquoi. Or, nous avons compris au fil des années que c'était extrêmement important. Nous avons un nombre croissant de scientifiques dits de haut niveau, c'est-à-dire des scientifiques qui connaissent la science et qui travaillent dans les villes, dans les provinces, partout, avec les instituteurs, avec les professeurs d'école, et ceci nous semble extrêmement important. Le deuxième mot à prononcer ici, c'est celui du site Internet. Nous avons tout de suite créé un site Internet, enfin un an après le démarrage de la main à la pâte, alors que les professeurs n'avaient pas encore beaucoup n'étaient pas encore reliés. Nous avons fait le pari, qui était facile à faire à l'époque, que les professeurs seraient très vite reliés, ils le sont pratiquement tous maintenant, et ce site existe. C'est un moyen très puissant de relier les professeurs d'école avec la connaissance, c'est-à-dire que sur ce site, ils trouvent ce qu'on appelle des ressources scientifiques, des expériences à faire, etc. Mais plus encore, et de façon plus intéressante encore, de les relier entre eux dans une sorte de forum où les professeurs d'école, d'une part, entre eux, et d'autre part, les professeurs avec le monde scientifique, peuvent communiquer. Donc ce site a maintenant joue un rôle très important, et nous sommes absolument ravis qu'il joue un rôle ailleurs que dans la science. Les professeurs, nous le savons, se servent de ce site pour communiquer sur la grammaire, sur l'histoire, etc. Et enfin, dernier mot, c'est la communauté internationale. Nous avons été très frappés dès le départ, vous avez vu, vous avez compris que ce problème est né de façon très franco-française, ici, pour les écoles françaises, et très vite, au bout de quelques mois, nous avons constaté que le même problème de la désaffection de la science, notamment dans les écoles primaires, était vrai partout. Et que le problème français était un problème canadien, américain, chinois, malaisien, Et nous avons établi donc des relations extrêmement fortes avec un très grand nombre de pays. Et c'est là une de nos joies, c'est de travailler avec des collègues qui ont les mêmes problèmes que nous, qui les traitent de façon légèrement différente quelquefois, mais avec exactement les mêmes problèmes que ceux que nous avons. Voilà en gros, monsieur le ministre, ce que certainement Georges Charpak vous aurait dit mieux que je le fais. Et je vous redis au nom de tous la grande, grande joie que nous avons que vous soyez ici. Merci monsieur le ministre.
Merci beaucoup, monsieur Kéré, pour ces belles paroles. Et je demande maintenant, je passe la parole à monsieur le ministre.
Merci beaucoup, monsieur le président. Merci aussi à monsieur Kéré de son exposé vivant. C'est vrai que nous sommes réunis pour un anniversaire, les 10 ans de la main à la pâte. 10 ans, c'est plus que l'âge de beaucoup des enfants qui sont ici. C'est une belle aventure et je voudrais en saluer les promoteurs et bien sûr nous pensons à Georges Charpak, prix Nobel, qui a illustré la science française au niveau le plus élevé. Je voudrais aussi non seulement féliciter les initiateurs, les promoteurs, ceux qui travaillent chaque année à cette opération, mais d'abord et avant tout, et vous le comprendrez, féliciter les maîtres, les professeurs et les enfants qui sont ici et qui ont été distingués par vous. Vous êtes ici dans une grande institution de notre pays et il faut que vous soyez conscient d'être dans un lieu qui n'est pas un lieu ordinaire. Certains d'entre vous ont l'occasion d'aller peut-être à l'Assemblée nationale ou au Sénat visiter une grande institution de notre République. C'est important pour notre démocratie. Ici, vous êtes dans une grande institution scientifique, c'est-à-dire un lieu qui compte, une institution majeure de notre pays, une institution à la fois très ancienne et très moderne, puisqu'on y aborde tous les grands sujets scientifiques de notre temps, avec les meilleurs de ceux qui constituent la communauté scientifique de notre pays. Alors vous avez, monsieur Kéré, en quelques mots, neuf, expliqué ce qu'est la main à la pâte. Pour ma part, j'y vois d'assez nombreux intérêts et j'y vois aussi tout l'intérêt que beaucoup participent dans nos écoles. La vocation scientifique, nous avons besoin que très jeunes naissent parmi vous, parmi les enfants qui sont ici, des vocations scientifiques. Peut-être y a-t-il parmi vous de futurs membres de l'Académie des sciences. C'est aussi l'occasion de vous faire faire, et je retiens l'expression, de la science. Faire de la science. C'est-à-dire être à la fois confronté aux réalités et tenter de les mieux comprendre grâce à l'esprit, grâce à l'intelligence humaine. C'est cette rencontre qui est organisée autour des expériences que vous menez, que vous imaginez, que vous conduisez à bien. Vous êtes dans le monde expérimental. Et je crois que c'est aussi une chose importante. Nous sommes un pays quelquefois excessivement de théorie. À chaque fois, vous mettez en pratique. Vous êtes sur le terrain de l'expérience et je pense qu'il y a là quelque chose d'extraordinairement formateur. Et si je dois à mon tour retenir trois mots à votre exemple, je dirais que les trois mots qui me paraissent essentiels, c'est d'abord la curiosité. Curiosité. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Que se passe-t-il? Comment l'expliquer? Comment le reproduire? Comment le mesurer? Curiosité qui est un ressort fondamental de l'esprit humain et de l'envie d'apprendre et du goût des sciences. Deuxièmement, la rigueur. Oh, le mot peut paraître un peu désuet. Cette rigueur qui est à la fois intellectuelle, mais qui est aussi très matérielle. Pour réussir une expérience, il faut y réfléchir, la concevoir, mais la mettre en œuvre très concrètement. Et c'est une école de rigueur que de mener une expérience scientifique sous l'égide de vos maîtres. Et enfin, je citerai l'humilité. L'humilité qui est une grande vertu, parce que lorsqu'on expérimente, lorsqu'on essaye de comprendre, on voit les limites de notre intelligence, de nos capacités, et c'est une vertu nécessaire pour progresser, de se rendre compte que tout n'est pas donné, tout n'est pas facile, qu'il faut faire effort et qu'on doit savoir dépasser les limites qui sont les nôtres. Alors tout cela est très riche, tout cela est susceptible de faire naître, je le disais, des vocations. Tout cela donne, et j'ai retenu de votre expression, de la joie d'apprendre et de la joie de comprendre. Je crois aussi que vous formez, vous contribuez à former de futurs citoyens. Et il me paraît important, dans la société qui est la nôtre, dans le monde qui est le nôtre, que nos futurs citoyens sachent, ou approchent en tout cas, ce qui est la science. La science qui est fondatrice pour nos civilisations. La science qui est expression de ce que l'esprit humain a sans doute de plus noble. Il est bien que de jeunes esprits, que de jeunes élèves soient très tôt confrontés à la science, voient comment faire de la science pour plus tard peut-être en être des acteurs, être des femmes ou des hommes de science, ou en tout cas en tant que citoyens, respecter la science, savoir ce qu'elle nous apporte, non seulement au plan matériel, mais aussi au plan moral. Pour tout cela, je voudrais vous renouveler mes très sincères remerciements et vous adresser mes très vives félicitations.
Vous venez d'écouter la retransmission de la remise des prix de la main à la pâte 2006, remis en début d'année 2007 à l'Institut de France. Écoliers et instituteurs étaient couronnés. Vous souhaitez en savoir plus sur les actions de la main à la pâte? Alors connectez-vous au www.lamap.fr. Et puis, bien sûr, restez sur Canal Academy. Vous pourrez écouter l'expérience de 3 jeunes professeurs récompensés pour leur module sur l'enseignement de l'astronomie et de l'écologie en école primaire. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.